Ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Françoise Fonquenelle, vous êtes bénévole à la CIMAD et vous venez nous parler de votre foi, de votre engagement. D'abord, la CIMAD, ça veut dire quoi ? Un sigle ?
La CIMAD, ça veut dire Comité Intermouvement pour l'aide aux déplacés et évacués. La CIMAD, c'est une vieille dame qui a eu 80 ans l'année dernière et qui a été créée au départ pour aider les populations déplacées d'Alsace-Lorraine au moment de la déclaration de guerre. Ces populations, elles ont été déplacées essentiellement dans le sud-ouest et les églises protestantes d'Alsace-Lorraine se sont unies pour essayer de créer des comités pour aider les personnes déplacées à surmonter leur exil et à les aider à s'installer dans le sud-ouest.
D'ailleurs, vous venez aussi de l'Est, mais oui. Pas dans des conditions aussi dramatiques.
Non, dans des conditions beaucoup plus confortables. Effectivement, je suis une enfant du baby-boom, si on peut dire, la génération un peu heureuse. Je suis née en Lorraine, dans une famille tout à fait modeste. Mes parents étaient boulangers-pâtissiers. Il y en a qui naissent dans les choux, d'autres dans les roses, et moi, je suis née dans les gâteaux. C'était très agréable. J'ai reçu une éducation protestante et j'ai grandi dans une famille où on prêtait beaucoup d'attention aux autres et ça commençait à l'intérieur de la famille, c'est-à-dire que chez moi on était toujours très respectueux les uns des autres.
Famille nombreuse.
Oui, on était 5 et je suis l'aînée. Voilà, d'accord. Et je suis restée en Lorraine jusqu'à mes 18 ans. À 18 ans, je suis partie à Paris pour suivre une formation. J'ai travaillé ensuite comme documentaliste dans un institut de recherche qui s'occupait de démographie. Puis, suite à des circonstances personnelles, je suis venue à Toulouse, qui est vraiment ma ville d'adoption, une ville que j'aime beaucoup.
En 72,
vous m'avez dit. En 72, à la naissance de ma fille unique. Voilà. Oui, en 72. Donc, ça fait vraiment pas mal de temps.
Et à côté de votre travail donc, dans des instituts de recherche ou à l'université, Toulouse Capitole, je crois, vous êtes ouverte à la dimension de l'autre, de l'étranger.
Pas tellement à ce moment-là. C'est plus tard, en grandissant... en esprit, si je peux dire, en regardant ce qui se passait autour de moi. Quand je suis arrivée à Paris à 18 ans, j'étais vraiment très jeune, très naïve, etc. J'ai découvert la vie petit à petit. Et en évoluant, en mûrissant, j'ai commencé à regarder autour de moi, mais je n'étais pas du tout engagée dans des mouvements de bénévolat ou des mouvements associatifs. Je ne connaissais pas cette vie-là. Je l'ai découverte au moment où je me suis engagée à la CIMAD, à ma retraite.
Parce qu'en fait, vos parents ne connaissaient pas la CIMAD à ce moment-là, autour
non.
des années 45
Oui, non, alors je suis née en 47, je ne vais pas vous le cacher. Oui. Mais j'ai entendu parler de la CIMAD, bien sûr, puisque la CIMAD a une origine protestante et ça a un peu imprégné les débuts, même si maintenant c'est un mouvement tout à fait plus que œcuménique. Enfin, tout le monde est là, quelles que soient ses opinions. Mais ça a un peu imprégné le mouvement et c'est vrai que ça a peut-être joué dans mon engagement il y a une dizaine d'années.
Au départ, ceux qui ont fondé la CIMAD, je pense, se sont opposés au nazisme.
Oui, la CIMAD fonde ses engagements sur ce qu'on appelle les thèses de Pomerol. Pomerol, c'est un endroit dans les Bouches-du-Rhône où se sont réunis en 1941 des responsables protestants qui ont pris des positions sur les relations avec l'État, jusqu'où on peut refuser d'obéir ou pas à un État s'il vous paraît légitime, etc. Et donc, il y a eu une condamnation de la collaboration, de l'antisémitisme à ce moment-là. Donc, ça a pas mal fondé les valeurs ultérieures de la CIMAD.
Oui, se posait à l'époque la question, je pense au synode protestant de Barmen, est-ce qu'on peut faire des prédications, des prédications qui justifient, ou l'Église justifie les points de vue ou les valeurs d'un État qui peut-être n'a pas les mêmes valeurs que celles qui sont dans l'Évangile ?
Eh ben, oui, voilà, toute la question est là. Jusqu'où faut-il obéir à la loi ? Il faut repenser le rapport entre l'Église et l'État. Jusqu'où faut-il obéir ? Comment respecte-t-on les libertés essentielles ? Etc. etc. Donc,
on dirait aujourd'hui c'est la laïcité.
C'est la laïcité.
Une laïcité ouverte, mais qui en même temps donne la responsabilité aux églises pour dire les croyances, les convictions,
croyances,
les valeurs.
La foi, les convictions. Oui.
Donc il y a un certain nombre de tensions.
Ah, il peut y avoir des tensions, hein, ça, il y en a, de toute façon, il y en a dans la CIMADE. Hein, il y a des tensions, non, mais des...
Interprétations diverses.
Des débats, des interprétations, etc. Par exemple, en ce moment où il est question d'une demande de régularisation, entre guillemets, massive des étrangers qui sont présents, il y a débat à la CIMADE. Bien sûr, nous, on est pour une régularisation. La question, c'est massif. La question sur de l'ouverture des frontières, elle se pose entre nous, on en discute. Il y a beaucoup de débats là-dessus.
Ouais. Ici, d'ailleurs, nous avons évoqué l'Observatoire français de l'immigration et de l'intégration.
Oui.
Mais pour en revenir justement à la situation d'avant-guerre ou pendant la guerre, je pense que tout le monde peut-être se rappelle la phrase de Martin Niemöller. Moi, je préfère... Vous m'avez dit non, c'est vous qui allez la dire parce que je l'ai trop lue.
Dites-la, oui, mais je l'ai beaucoup dite. Alors
L'Église confessante en Allemagne, à l'époque de la République démocratique allemande, je travaillais sur ces questions de l'opposition entre les Églises catholiques, protestantes et les communistes. Mais la question était par le pasteur Martin Niemöller. Lorsqu'ils ont arrêté les communistes, je n'ai pas élevé la voix. Lorsqu'ils ont interné les juifs, j'ai gardé le silence. Lorsqu'ils s'en sont pris aux sociaux-démocrates, je me suis tu. Et lorsqu'ils sont venus me prendre, il n'y avait plus personne pour me défendre.
Voilà, c'est très clair. Et je rebondirai en disant que de nos thèses à la CIMADE, c'est de dire que le droit des étrangers, qui est par rapport au droit administratif normal, entre guillemets, enfin le droit des Français, est dérogatoire sur beaucoup de points, mais que c'est l'ouverture à des mêmes genres de dérogations. Pour toutes les autres personnes. Pour le moment, on ne se sent pas concernés, parce que c'est des lois qui concernent les étrangers, mais elles peuvent prendre des tours qui peuvent, nous aussi, nous concerner plus tard. C'est un peu la même chose.
C'est des questions de définition. Nous ne sommes pas juristes, ni vous, ni
non,
moi.
Je
se pose
juriste.
La question du résident qui n'est pas citoyen. Alors le juge va dire oui, mais vous avez des droits, vous pouvez voter. Ah ben ceux qui sont sur place depuis quelques années,
oui.
Ils n'ont pas le droit de voter, même s'ils travaillent et s'ils payent des impôts. Et donc déjà du temps de Monsieur Jospin, il était question de dire les étrangers résidents depuis un certain temps pourront voter au moins pour les élections
locales,
ou pour être au prud'homme ou pour être syndicat. On va dire parce que ils sont pas comme nous.
Oui.
La discrimination, mais se pose donc la question du juriste.
Moi, je ne suis pas juriste. Je me suis formée au droit des étrangers depuis que je suis à la CIMADE. D'ailleurs, ça a été l'occasion de découverte non seulement sur le droit des étrangers, mais sur la façon dont c'est appliqué. Je suis allée de stupéfaction en stupéfaction. Et ensuite, ça m'a légèrement révoltée, je dois dire, parce qu'il y a le droit et puis il y a les pratiques. Et donc, dans les pratiques administratives, on est quelquefois assez concerné par ce qu'on voit.
Il n'y a pas d'étrangers sur cette terre.
Oui, il y en a en France.
C'est un slogan de la CIMADE.
Oui, il n'y a pas d'étrangers sur cette terre, mais il y en a en France. Donc, ils ont des droits. Et ces droits, très souvent, ne sont pas respectés ou interprété dans un sens extrêmement restrictif. C'est-à-dire, je ne vais pas vous faire une leçon de droit administratif, mais le pouvoir discrétionnaire du préfet, c'est quelque chose qui quelquefois me paraît un peu terrifiant. C'est-à-dire qu'il y a énormément de situations où on pourrait régulariser les personnes, parce que évidemment nous on a essentiellement des demandes de personnes qui n'ont pas de papier. Il y a énormément de situations où on pourrait, la loi l'autorise, c'est écrit noir sur blanc, dans telle et telle condition, le préfet peut régulariser les personnes. Il peut, certes, mais il n'est pas obligé. Et comme par hasard, il ne le fait jamais, ou très, très peu souvent. Donc cette histoire de pouvoir discrétionnaire fait que de nombreuses personnes qui pourraient être régularisées parce que c'est dans les conditions sont prévues par la loi, ne le sont pas et restent dans la précarité et l'illégalité.
Ce n'est pas seulement une question de carte de résident renouvelée, c'est aussi la carte vitale. C'est aussi des cartes absolument nécessaires pour circuler en étant dans les règles.
Oui.
Et je sais qu'au niveau des états généraux des migrations dont nous avons déjà parlé ici, il y a eu des lettres adressées au préfet.
Oui, les états généraux des migrations regroupent beaucoup d'associations. À Toulouse, je crois qu'il y en a une cinquantaine. Et qui a fait des actions que toutes les personnes concernées par les étrangers essayent d'avoir des actions collectives, font quelquefois des lettres à la préfecture, essayent d'avoir une position pour faire un peu d'action plus incisive quelquefois. Alors, quand on est plusieurs, ça marche quelquefois mieux.
Donc, alors il y a de la politique, mais il y a aussi un soutien affectif ou un soutien communautaire. Et alors c'est la place peut-être des sentiments, de la poésie. Vous nous avez apporté une chanson pour calmer un petit peu notre entretien qui commence à tourner. Nous l'écoutons.
Un peu technique, pardon.
Non, il faut le faire.
J'y crois, avec Benoît Petit.
Et ce soir, avec Françoise Fonquenel, vous êtes bénévole à la CIMAD et vous nous avez apporté ce poème, cette chanson en kabyle à Vana Inouva, c'est-à-dire c'est une fille, ma fille, Griba, ouvre-moi la porte, j'ai peur. Mon père s'emmaillote dans son burnou, il se réchauffe, et le fils parle des économies parce qu'il n'y a plus beaucoup de sous, ainsi de suite, et les enfants se pressent autour de leur grand-mère. Pourquoi cette poésie vous a parlé, vous parle encore ?
C'est pas tellement les paroles qui me parlent, c'est d'abord je voulais parler d'Idir, puisqu'il est décédé au mois de mai dernier, et donc c'était une façon de se souvenir de lui. Et puis, je trouve cette chanson magnifique, évidemment. Et surtout, ce qui m'a frappée, c'est que c'est une chanson qui décrit une scène, quand même un peu banale, d'un foyer autour du feu, les contes, les grands-parents qui sont là, etc. Avec une menace qui plane à l'extérieur. Donc, c'est quand même un peu angoissant, ça fait un peu peur et malheureusement... C'est révélé en Algérie que la menace dont a peur la petite fille, elle s'est pas mal abattue sur le pays au moment des années sombres et du GIA. Mais cette chanson, elle a eu un succès international extraordinaire. Et justement, ça me parle, ça me dit que tous les hommes peuvent avoir des émotions semblables, où qu'ils soient, quels qu'ils soient. Et que donc, quand la CIMAD dit « il n'y a pas d'étrangers dans ce monde », non, il n'y a pas d'étrangers dans ce monde, on est tous semblables et on peut tous être atteints par les mêmes émotions et les mêmes problèmes, les mêmes joies, les mêmes chagrins.
On a une chanson qui est basée sur sur la ruralité, sur un petit village, avec oui. Une famille, on va dire, plutôt traditionnelle. Oui. Et nous sommes en pleine... pandémie dans la ville plutôt.
Oui.
C'est une autre culture, c'est une autre citoyenneté, c'est une autre anthropologie. Non, il y a des valeurs universelles selon
vous.
Oui,
je pense qu'il y a des valeurs universelles, des émotions universelles. Et que classifier les gens entre étrangers, pas étrangers, avoir différents niveaux, enfin, c'est toujours eux. Et nous, à la CIMAD, on préfère dire « eux, c'est nous », comme le dit Daniel Pénac dans un petit livre qu'il a fait il y a quelques années.
Et c'est le livre, l'image que vous avez choisie
oui.
pour mettre
voilà.
sur le podcast de notre émission.
On se sent à l'abri de tout. Finalement, la pandémie a prouvé qu'on n'était pas à l'abri de tout, mais on a été quand même bien protégés, il faut le dire. C'est les plus précaires qui ont payé le prix le plus cher et qui continuent à le faire dans d'autres pays. Mais on n'est pas si à l'abri que ça.
Oui, quand le protestantisme allemand s'opposait au slogan « un peuple, un empire, un chef », ou lorsque les pasteurs protestants ont pris la défense des juifs, à l'historien Patrick Cabanel, l'historien de Toulouse, qui développe les efforts de la CIMAD pour le soutien des Juifs pendant la guerre.
Oui.
Eh bien, c'est un combat, mais aujourd'hui, vous diriez, le combat continue. Rien n'est jamais acquis.
Le combat, la CIMAD, elle a été créée sur une situation précise, l'évacuation des populations d'Alsace et de Lorraine. Mais après, elle n'a jamais arrêté. Il y a toujours eu quelqu'un à sauver, entre guillemets. Mais après les camps où elle est intervenue, les camps de regroupement, etc., elle est intervenue après la guerre pour engager la réconciliation en Allemagne. Elle a accompagné les réfugiés d'Europe de l'Est. Elle a été en Algérie. Elle a été des deux côtés en Algérie. Elle a été en Algérie. Elle a été en France aux côtés des Algériens qui étaient là, des Harkis. Il y a eu les boat people, il y a eu le Chili, les dictatures latino-américaines. Enfin, il y a toujours eu besoin d'aider des personnes qui sont obligées de partir de chez eux, de se réfugier quelque part. Et puis maintenant, on se bat sur, bien sûr, l'accueil, mais aussi... Le traitement qui est réservé aux personnes qui sont là, qui sont en situation souvent régulière aussi, mais qui sont extrêmement précarisées par l'amoncellement des lois sur l'immigration et l'intégration qui n'arrêtent pas de se succéder. Moi, je suis à la CIMAD depuis 2009, ça va faire 11 ans. Je crois que j'ai vu déjà 3 ou 4 lois qui se sont empilées, mais qui malheureusement vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire une restriction... des conditions d'accès au papier, si je peux dire, à une carte de séjour, etc. Quand on a une carte de séjour, il est devenu encore plus compliqué qu'avant de la renouveler. Et c'est pour ça que maintenant, la CIMADE est très orientée sur l'accompagnement juridique et le plaidoyer politique pour essayer de faire changer ces politiques migratoires de plus en plus dures.
C'est-à-dire qu'il y a des droits, mais en même temps, s'il n'y a personne pour faire que la loi soit appliquée, ces
voilà,
droits ne sont pas...
Voilà, il faut vraiment faire appliquer la loi à minima. Si possible, faire que le pouvoir discrétionnaire du préfet, comme je l'ai dit, s'exerce dans un sens favorable aux personnes, au lieu qu'elles s'exercent dans un sens restrictif.
Et pour ça, il faut des bénévoles, des organisations non gouvernementales, c'est
oui,
ça, en contre-pouvoir.
Ça peut être un contre-pouvoir, c'est, d'autant qu'on fait pas mal de plaidoyers politiques, à partir de ce qu'on constate dans nos permanences, évidemment. C'est les deux aspects de notre activité en tant que groupe CIMADE, groupe à Toulouse, je veux dire, sont liés. On fait des constatations en écoutant les gens, en les recevant dans nos permanences. Et donc, ça nous conduit à avoir des relations avec la préfecture, avec les ministères, aussi bien au plan national, puisque la CIMADE, c'est une association qui a des...
Ramifications même internationales.
Ramifications internationales, je ne dirais pas ça, mais on est en lien avec des organisations semblables. Et la CIMADE, c'est un mouvement national qui se décline au niveau régional, au niveau local. À Toulouse, on a un groupe local. Dans la région, on a environ 13 groupes locaux qui font de l'accueil et qui font du témoignage et du plaidoyer.
Et en même temps, je crois que si certaines personnes veulent participer en n'ayant pas beaucoup de temps, en donnant une aumône ou à certains moments en donnant un peu d'argent...
On peut adhérer à la CIMADE ou on peut faire des dons, oui.
je lisais qu'il y a le dispensaire du centre ophtalmologique à Dakar, qu'il y a des projets agricoles, médicaux,
il y a une
formation.
Branche de la CIMADE qui s'appelle Solidarité Internationale, qui travaille à des projets internationaux, oui, effectivement.
Palestine, Haïti,
au
Mali.
Au plan national, il y a cette branche de la CIMADE, oui.
C'est-à-dire qu'en Suisse, c'est...
des projets à l'international.
Ouais. C'est pas une action à un moment donné pointilliste, mais c'est un suivi.
Il y a un suivi,
que...
oui.
Ouais. Et donc, des bénévoles jeunes et moins jeunes qui donnent de leur temps.
En gros, les bénévoles, ça demande quand même pas mal d'investissement, un bénévolat à la CIMADE, parce qu'il faut se former aux droits des étrangers, il faut se former aux pratiques de la préfecture. Il faut comprendre le terrain, il faut faire très attention parce qu'on s'occupe de dossiers de personnes. Et je dis toujours, on est bénévole, mais on n'est pas amateur. Donc ça demande pas mal d'investissement, ce qui fait qu'il y a beaucoup de retraités, dans mon genre, ou bien souvent des étudiants. Mais entre les deux catégories, c'est assez rare que les personnes soient suffisamment disponibles. Parce que je dois dire que ça demande un peu de temps.
Alors, habituellement, je demande, vous avez des héros, des saints qui vous inspirent, qui vous stimulent, indépendamment du cahier de la...
Des initiateurs de la CIMADE, je peux... c'est très personnel.
Ou des livres qui justifient votre...
À la fois, c'est une personne, je dirais, et un livre. J'ai toujours été très frappée par la personnalité de Etty Hillesum,
oui,
qui était une jeune juive qui vivait à Amsterdam et qui a malheureusement disparu dans les camps. Elle a tenu un journal. Bon, c'est pas Anne Frank, hein, c'est Etty Hillesum. Elle n'était pas enfermée dans un grenier non plus, mais c'est une personne qui m'a beaucoup impressionnée. J'ai lu son journal et à la fois son engagement spirituel, sa recherche spirituelle et son engagement actif auprès des Juifs qui étaient internés dans les camps de Westerbork avant leur départ pour les camps de concentration, avant qu'elle ne parte elle-même là-bas. Donc voilà. Puis j'ai une admiration éperdue pour Simone Veil. Bon, mais ça, je crois que personne...
Autant que l'Évangile comme livre inspirant, autant que l'Évangile ou la Bible.
L'Évangile comme livre inspirant, je ne sais pas. Pour moi, c'est l'Évangile et la Bible, c'est des souvenirs de mon école du dimanche. Je suis contente d'avoir ces références, elles me servent beaucoup. Mais je dois dire que j'ai un peu abandonné ça. Mais si je devais partir sur une île déserte, certainement j'emporterais la Bible. J'aurais enfin le temps de la lire depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau.
Voilà, et en même temps, vous vous appelez les auditeurs qui ne connaissent pas la CIMADE à pouvoir aller sur le site.
À aller sur le site, venir nous appeler. Je donne mon numéro de téléphone de la CIMADE, personne concernée, 05 61 23 79 75. Et si vous nous contactez à la suite de cette émission, vous pouvez me demander, Françoise.
Bien, merci Françoise pour votre conviction et votre engagement, pour
merci
le soutien des étrangers.
Et, merci.
Merci aussi à Christophe pour l'enregistrement.